Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour tout le monde, cette émission a été préparée à trois avec Guillaume, Nicolas et Christine. Au menu, les méga-bassines, surtout dans les Deux-Sèvres, mais pas que. La zone à faible émission, la fameuse ZFE sur Marseille. Et dans le cadre d'une série sur les initiatives solidaires, on va commencer par Martigues et la cuisine sociale et solidaire de Martigues avec Sophie.
On ne peut pas dans cette émission ne pas parler de la mobilisation autour des méga-bassines, contre les méga-bassines, qui a eu lieu à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres le week-end du 29 et 30 octobre. Alors on avait déjà prévu d'en parler avant que ça se passe,
ouais.
Voilà ce qu'on disait, hein. On fait passer l'enregistrement.
Juste avant la manifestation, on avait commencé à enregistrer cette émission.
Tu te rappelles, on avait parlé dans une de nos émissions là, de méga bassines. J'avais interviewé une fille qui s'en occupait. Alors, les méga bassines, tu nous rappelles vite ce que c'est là. C'est des trucs.
Géant.
Géant.
C'est géant, c'est de la captation, c'est de la captation de l'eau dans des méga bassines qui portent bien leur nom, puisque c'est des surfaces qui sont
8 à 10 hectares en moyenne,
voilà.
8 mètres de profondeur et entourées de digues de 10 mètres de haut.
Ça, donc
on parle de ça. Hein.
C'est énorme, c'est démesuré comme installation. L'idée, c'est de en hiver ou théoriquement, hein, parce que là on est quand même plus sûr de rien quant à la météo et au climat, mais donc en hiver théoriquement récupérer les précipitations un peu plus importantes qu'en été selon les régions.
Sauf que en fait ils prennent l'eau dans la nappe, ils ne prennent pas l'eau de pluie seulement.
Et quand bien
ils
même
ils remplissent les bassines avec une pompe dans la nappe.
C'est ça.
C'est même une des actions qui ont été faites contre les méga-bassines, c'est d'enlever la pompe. Elles ont toute cette pompe.
Mais c'est ça. Et ça, bah, bien sûr, ça modifie le cycle de l'eau. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui ne se retrouve plus dans le réseau naturel de l'eau, dans le fonctionnement de archaïque de l'eau, hein, et dans tout ce qu'elle apporte à tous les niveaux de la nature, pour la flore, pour la faune, pour les écosystèmes. La mise en place et la multiplication de ces méga-bassines, c'est ça qu'on est en train de mettre en jeu. Pour moi, il y a vraiment une notion de jouer aux apprentis sorciers. Alors, il y a des études, hein, aujourd'hui, là. Il y a des scientifiques qui se sont posés sur les conséquences de la mise en place de ces méga-bassines. On sait ce que ça fait, on sait que ça va
assécher les marées.
Voilà, faire disparaître les zones humides, faire disparaître les cours d'eau, ou du moins les assécher pendant certaines périodes. Ce qui fait que toute la flore qui y vit et s'y développe normalement va disparaître. Hein, quand on sait la dernière étude qui est sortie, qui rapporte qu'il y a 70% des espèces, des animaux là, qui ont disparu depuis les années 50, il y a quand même un petit peu de quoi s'inquiéter. Surtout quand on sait la destination de l'utilisation de ces méga-bassines, hein, qui concernent à peu près 6%, je crois, des agriculteurs, qui vont pouvoir exploiter cette ressource au détriment donc des milieux naturels. Et si c'est 6% d'agriculteurs, la différence, ça fait 94% qui, eux, n'ont pas accès à ces ressources, à cette captation, à cette privatisation.
Et principalement, donc, c'est 6% dans les zones où ça se construit. Hein. Ce n'est pas 6% des agriculteurs. Ces 94%, ce sont principalement les petits paysans, l'agriculture paysanne, qui restent les plus nombreux, mais pas forcément en surface. Et les 6%, ce sont les grosses exploitations à caractère industriel, quoi.
Qui produisent essentiellement du maïs.
Pour deux tiers, ça alimente le maïs. Et sinon, c'est les légumes industriels.
C'est ça. maïs qui sert ensuite à faire en majorité de l'ensilage pour nourrir le cheptel bovin essentiellement, et destiné donc à la consommation de viande et de produits laitiers essentiellement. Donc voilà, l'implication, elle est là à nouveau, hein, tout est lié en permanence, hein, tout se rejoint toujours aujourd'hui, là, toutes les questions, hein, la consommation de viande, c'est voilà, c'est lié directement à ça. Hein,
Alors au départ, il prétendait que ça allait être financé par les paysans, qui sont les grosses structures paysannes industrielles qui s'associent entre elles, qui implantent parfois les bassines sur leur propre terrain, hein, mais parfois c'est sur des terrains publics maintenant. Et puis désormais, on apprend que en fait c'est financé à 70% d'argent public via les agences de l'eau, la région, l'État, l'Europe. Au profit de quelques-uns, privés, gros.
Gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est
des financements publics pour capter l'eau, un bien commun, qui devrait d'abord servir tout ce à quoi elle sert pour la biodiversité et pour la nature, et ensuite servir aussi à l'alimentation humaine en eau. Et aux cultures à taille humaine et qui sont captées par ces grandes surfaces monoculture et autres.
Ça rappelle quand même pas mal, hein, le Forum mondial de l'eau. Hein, on s'est battu déjà il y a quelques années pour ça, hein, en pointant ce risque-là qui existe toujours, là, qui prend des directions différentes pour, au final, faire de l'eau une marchandise. On voit bien là que c'est la finalité de ces méga-bassines aussi. Là, c'est l'appropriation d'un bien naturel, une ressource naturelle.
Rappelons qu'il y a un certain gaspillage, puisqu'ils puisent l'eau dans la nappe. Dans la nappe, il n'y a pas d'évaporation. Alors que là, dans ces méga-bassines, il y a un gaspillage à hauteur de 20% hein, d'évaporation de l'eau qui y a été mise. Et si on en parle, c'est parce que 28-29 octobre, c'est une grande mobilisation
importante.
Contre les bassines dans les Deux-Sèvres, avec donc un appel à se rendre sur le chantier de Sainte-Soline. On fait l'émission avant, mais on pense que ça aura beaucoup de succès.
On aura des retours en novembre.
Voilà, ce week-end, donc, la manifestation a été interdite le vendredi par la préfecture. Et aussitôt, un nombre incalculable de forces de police, gendarmes et compagnie se sont rendus sur place. Ils étaient quand même moins nombreux que les manifestants, qui étaient entre 3 et 5 000. Une forte mobilisation pour une manifestation interdite et maintenue. Et entre 1 000 et 1 500 forces de l'ordre, hein, lourdement armées, grenades défensives et compagnie. Quelque chose qui, au départ, était de toute façon une protestation pacifique, avec le souhait d'empêcher quand même un chantier.
Ça reste une manifestation, donc on vient contester quelque chose, on vient dire qu'on n'est pas d'accord. Donc forcément, on se retrouve face à un désaccord. Après, toute la question et toute l'intelligence, c'est de faire en sorte que ce désaccord puisse être discuté et pas que ça donne lieu juste à un affrontement et à une opposition. C'est dans le dialogue qu'on arrive à sortir des situations compliquées pacifiquement.
Avec ce problème central de l'eau, de son partage et du respect des besoins naturels et des besoins de toute la population. Et alors après avoir en quelque sorte créé ces affrontements, hein, ou largement provoqué ces affrontements, on a eu droit au discours de Darmanin qui a violemment attaqué les manifestants oralement, hein, en parlant notamment d'écoterrorisme.
En inventant l'écoterrorisme, ouais, c'est ça. Ouais. Ce monsieur, il faudrait peut-être qu'il lui ouvre un dictionnaire de temps en temps avant de pavaner dans les médias et de faire le buzz pour oublier le sujet en réalité. Hein.
Parce que terrorisme, ça veut dire faire régner la terreur, vouloir provoquer la terreur pour imposer un régime fort ou des choses dont personne ne veut. Terrorisme, c'est semer la terreur.
La première chose qui vient quand on entend ce mot-là, en tout cas moi, la première chose à quoi je pense, c'est aux familles et c'est aux victimes des terroristes qui ont sévi il y a quelques temps en France, et d'essayer de comprendre comment ils peuvent ressentir ce mot-là employé à l'intention de gens qui viennent manifester pour
le bien de l'humanité, comme tu disais tout
ça,
à l'heure.
Voilà, c'est ça.
Rien à voir.
C'est ça.
Avec des auteurs d'attentats ou des gens qui tirent à la mitraillette sur tous les participants à un concert ou...
Oui, oui, moi ça me fait penser parce qu'en réalité ce mot-là qui est un néologisme, ça sert juste à faire parler, hein, et à créer une polémique qui détourne du sujet. On avait oublié la dernière fois de parler de l'Aclusa, où il y a un projet aussi de bassine. Mais là, c'est pas pour irriguer, c'est pas pour arroser les cultures vivrières. C'est pour faire de la neige artificielle. Donc là, on est vraiment dans l'absolue dérision de ces projets qui sont, comme pour la culture qui va servir à certains pour faire de l'agriculture intensive, pour produire du maïs. Voilà ce qu'on avait dit la dernière fois.
Ils veulent mettre des bassines partout à toutes les sauces, y compris pour faire perdurer des stations de ski, alors que le réchauffement climatique fait qu'il y a de moins en moins de neige, mais c'est d'une stupidité effarante. Ça. Tout ça pour préserver, soi-disant, l'économie touristique.
C'est ça, l'économie, toujours.
Tu avais relevé une belle phrase de Camus.
Ouais, Albert Camus, qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Ouais, je pense que par les temps qui courent, on pourrait s'en dispenser.
Qui c'est qui est très gentil ?
Très gentil.
Méchant, qui a tous les premiers prix,
les gentils,
qui roupille au dernier rang,
les méchants,
qui fait des économies,
les gentils,
et qui gaspille son argent,
les méchants,
qui c'est qui vend des fusils,
les gentils,
qui c'est qui se retrouve devant,
les méchants.
C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie?
Les gentils.
Pour qui t'as un gros penchant?
Les méchants.
C'est travail, famille, patrie.
Les gentils.
C'est la retraite. À 20 ans, les méchants. Oh. Ils font l'amour le samedi.
Les gentils.
Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cœur content, les méchants, les gentils méchants.
Depuis le 1er septembre, une partie du centre-ville est placée en zone de faible émission, ZFE. Cette mesure vise à interdire et donc verbaliser les véhicules classés critère 5 et ceux qui ne possèdent pas de vignette. Cette zone s'étend sur 20 km² et impactera environ 314 000 habitants.
Alors pour l'instant, les autorités restent indulgentes. Hein. Une période pédagogique est en place jusqu'à fin 2022. C'est bientôt. Au-delà de cette date, les propriétaires de véhicules non homologués devront s'acquitter d'une amende de 68 euros s'ils se font prendre.
Et oui, alors on comprend tout à fait la nécessité de protéger les populations du centre-ville, de la pollution à travers cette mesure. Mais au-delà de l'enjeu écologique, se pose bien évidemment la question de la répercussion sociale.
On se souvient forcément hein, du fameux slogan, qui est d'ailleurs en tête du site d'Attaque France, « Fin du monde, fin du mois, même combat », lors de la crise des Gilets jaunes. Et cette nouvelle mesure risque de raviver le débat autour de l'écologie qu'on dit punitive, entre guillemets, qui taxe les plus pauvres sans pour autant s'attaquer aux vrais pollueurs de ce monde.
Alors le combat de la mairie de Marseille contre les navires de croisière montre clairement sa volonté d'agir globalement contre toutes les sources de pollution de la ville. Mais cette ZFE nous interpelle car elle touche plusieurs quartiers très pauvres, dont celui de la Belle de Mai, réputé comme le plus pauvre d'Europe selon les propres mots de Benoît Payan.
Donc, doit se poser la question des alternatives, particulièrement pour les personnes qui ont un faible revenu et qui doivent utiliser quotidiennement leur voiture pour se déplacer.
Et contrairement à d'autres grandes villes concernées par la mise en place d'une ZFE, aucune aide spécifique n'est prévue par la métropole pour accompagner les propriétaires modestes à changer de véhicule. La métropole estime qu'elle a déjà fait beaucoup en termes de transition écologique à travers l'aide de 5000 euros qu'elle a accordée à tous les habitants des Bouches-du-Rhône pour l'achat d'un véhicule électrique entre 2018 et 2021.
Cette aide étant versée sans condition de ressources a largement profité aux habitants les plus aisés puisque malgré tout, il faut débourser la modique somme de 20 000 euros aide incluse hein, pour un petit véhicule de type Twingo électrique.
Alors d'autres aides de l'État et de la région peuvent s'ajouter, bien sûr, mais les sommes restent quand même très très conséquentes pour l'acheteur. Cette mesure a coûté 65,3 millions d'euros, le quadruple de ce qui était prévu initialement. Et maintenant, la métropole estime que les caisses sont vides pour les habitants des quartiers populaires. La métropole renvoie la balle à la mairie et aux autres collectivités.
Si les aides à l'achat d'un véhicule propre sont pour l'instant en suspens, la métropole a cependant avancé quelques engagements concernant les transports en commun.
Oui, alors par exemple, pour ceux qui habitent, travaillent ou étudient dans la ZFE, 6 mois d'abonnement sera proposé par le réseau RTM ou le vélo.
Mais la ZFE, ça va pas durer que 6 mois quand même.
Oui, c'est vraiment aberrant, je te l'accorde. Après, d'autres mesures sont avancées, comme une aide de 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique. Mais bon, on voit bien que ce sont des miettes comparées aux 5000 euros. Mais l'annonce quand même la plus importante reste celle faite par la présidente de la RTM qui promet une refonte totale du réseau d'ici la fin 2024.
Bon, et quel autre accompagnement de la ZFE pourrait-il y avoir alors ?
Eh bien, il y a plusieurs solutions qui sont déjà l'utilisation des transports en commun, des transports doux, le vélo, le roller, la marche à pied, etc. Après, pour vraiment celles et ceux qui n'ont pas d'autres moyens que d'utiliser un véhicule pour quelque raison que ce soit.
Transport de matériel.
Ouais, voilà, ou problème de santé.
Bon, déjà, problème de santé, c'est prévu à l'intérieur de la ZFE.
Il y a des dérogations.
Il y a des dérogations pour les personnes qui, même ont un véhicule numéro 4 et 5, et qui peuvent quand même circuler en ZFE si elles sont handicapées, par exemple.
Oui, bien sûr. Après, eh bien donc voilà, il y a des solutions parce que l'acquisition d'un véhicule électrique, comme ça a été dit, ça reste assez onéreux et pas à la portée de tout le monde. Il y a des solutions d'évolution, ça s'appelle, ils appellent ça le rétrofit, c'est-à-dire qu'on transforme son véhicule thermique en véhicule électrique. Ça existe, c'est pratiqué, c'est pas une méthode hasardeuse. Ça rend le véhicule agréé
par le garage qui fait le...
Bah non, mais par l'État, je veux dire.
Par l'État, c'est, oui. Voilà, c'est depuis 2020, la loi le prévoit.
Ouais, c'est ça. Et janvier 2020. Du coup, il y a quelques entreprises et quelques revendeurs qui peuvent soit vendre un kit à installer. Bon, c'est peut-être à réserver aux bricoleurs émérites, avérés. Mais on peut faire évoluer son véhicule vers un véhicule thermique, vers un véhicule électrique, pour à partir de on donne des chiffres un peu comme ça, mais aux alentours de 10 000 euros sans les aides. Donc on retire de ça les aides de l'État entre 2 500 et 5 000 euros.
Voilà. Donc ça diminue quand même le prix de 10 000.
Puis surtout, ça a l'avantage de pas générer toute l'énergie grise nécessaire à la fabrication d'un véhicule, d'un nouveau véhicule, quoi. On recycle, en quelque sorte.
On réutilise la carcasse.
La carcasse,
les freins, enfin, beaucoup de choses, quoi.
Et voilà. Ce qui est quand même plutôt une solution intéressante, me semble-t-il.
reste que le prix est quand même resterait encore élevé, entre 5 et 7500 hein, environ. Et encore faut-il trouver bon, le garage là où on habite qui le fait. Alors c'est vrai qu'après, bien que l'électricité est augmentée, c'est beaucoup moins cher que de l'essence pour rouler. Donc ça reste avantageux pour des gens qui utilisent souvent leur véhicule tous les jours pour aller travailler, véhicule utilitaire qui sert à transporter des choses tous les jours. Bon, par contre, pour ceux qui ont suivi les recommandations de diminuer leur utilisation de véhicules, ça devient très cher pour peu d'utilisation.
Ah, de toute façon, oui, l'utilisation d'un véhicule, c'est assez onéreux, hein, entre l'achat, les consommables, l'entretien. C'est un calcul qui se fait, qu'il faut avoir à grande échelle, quoi, pas juste sur le coût du remplissage du réservoir. Ça va au-delà, bien sûr. Mais encore faudrait-il pouvoir s'en passer, avoir des transports en commun qui fonctionnent. On connaît le sujet, hein, des transports en commun marseillais, des bus qui s'arrêtent à 21h, des zones qui sont pas desservies, etc., etc. Mais ça vient d'une politique qui a été celle de vouloir favoriser le développement des véhicules individuels. Pourquoi ? Ben, pour la croissance, hein, pour générer du profit, pour vendre toujours plus de choses et que ça génère toujours plus d'argent et de profit. Profit qui se retrouve toujours dans les poches des mêmes. Hein,
des mêmes... Semblerait. Semblerait que leurs poches grossissent,
ah oui,
pendant que celles des autres diminuent.
C'est ça, ouais. Mais on peut résister, hein, voilà, on peut aussi développer la mutualisation, le covoiturage, l'union, hein, bien sûr. C'est le moyen de riposte le plus efficace, ou l'utilisation des moyens doux, hein, le vélo, la marche à pied. J'en vois de plus en plus, hein, des vélos à Marseille, ça fait plaisir. Ça se développe énormément. C'est assez rassurant. Alors, faut pas regarder les bulletins de pollution quand tu prends ton vélo à Marseille, parce que ça dissuade. Mais bon, la ZFE est là pour ça normalement, donc courage, continuons la lutte.
Continuons à respirer.
Ouais.
Ça va venir. Les bateaux de croisière, on ne sait pas s'ils arrêteront de lâcher bientôt leur SO2, mais bon. Parce qu'il y a les, bon, le plus gros de la pollution à Marseille, c'est les voitures quand même, mais il y a aussi les autres pollutions qu'on n'arrête pas forcément immédiatement.
Alors, la voiture, ouais, on a quand même là depuis, on est quand même dans un mouvement de fond de réduction de la place de la véhicule, des voitures individuelles à Marseille. Ça va doucement, mais sûrement quand même. Heureusement.
Voilà.
Heureusement.
Ben, bonne chance alors.
Et pédalez bien.
Highway, ce morceau est l'œuvre du groupe Parade, extrait de leur premier album éponyme. Ce groupe de rock marseillais, très en vogue actuellement, propose un rock puissant, électrisant, qui nous rappelle inlassablement le groupe new-yorkais des Strokes. Un groupe à découvrir et à écouter de toute urgence.
Getting weaker. How much we brought to
Alors Christine, nous nous rendons maintenant au quartier de l'île à Martigues, 10 rue des Cordonniers, pour vous présenter un restaurant à emporter, pas comme les autres.
Et oui, depuis mai 2022, la cuisine sociale et solidaire de Martigues a vu le jour. Il s'agit d'un projet initié à l'origine autour du café associatif Le Rallumeur d'Étoiles, mais qui est désormais porté par une association, la cuisine sociale et solidaire. Alors le principe est simple, pour 4 plats commandés, un plat est offert à des personnes dans le besoin et qui n'ont pas la possibilité de cuisiner.
Et tout le monde peut commander un repas 24 heures à l'avance.
Alors donc, nous avons rencontré Sophie pour en savoir plus sur cette initiative. Salut Sophie. Alors, tu peux nous dire d'abord comment est né le projet ?
Alors, bonjour à toutes et tous. Le projet, il est né de militantes et de militants de Martigues en juin 2021. En fait, autour de personnes qui cuisinaient déjà en fait, chez elles ou chez eux et en fait, qui commençaient à se retrouver un peu en difficulté, un peu serrées, et qui ont dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un vrai lieu de production alimentaire plutôt que de le faire chez nous pour le distribuer à des personnes qui vivaient dans la rue ou en difficulté ?» C'était déjà fait notamment par une association autour de l'église évangélique de Martigues. Il y avait aussi l'idée de porter un projet de plus grande ampleur. Et du coup, en fait, il y a eu une première réunion avec des statuts associatifs et surtout une demande de subvention qui a été posée en fait en mai 2021 auprès de France Relance. C'est un peu le lancement du projet.
Nico ?
Et cette demande de subvention, en fait, on en a demandé deux. Il y a une subvention de fonctionnement et une subvention de dotation et on n'a eu que celle de dotation, en fait, 17 000 euros. En fait, il fallait dépenser 21 000 euros pour en avoir 17 000 en achat de matériel pour construire une cuisine. C'est le lancement du projet.
Et pour le lieu, alors, vous l'avez eu
Alors, pour le lieu, c'est les talents de deux personnes, hein, Fred et Marie, qui sont aussi à l'origine du projet. Marie, qui est la cuisinière, qui est allée voir en fait, un des bailleurs sociaux de Martigues, la Logirem. Et on avait repéré en fait, sur l'île, c'est-à-dire Martigues, c'est 3 villages de pêcheurs, entre guillemets, à la base. Il y a Ferrières, il y a le cœur de l'île et il y a le village de Jonquière. Donc, nous, on est installés sur le quartier de l'île. Et le long de l'église, en fait, il y avait un local qui appartenait à une ancienne ONG qui est fermée depuis un certain temps, l'ONG plus au sud. Et en fait, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ce petit local. Donc, ils sont allés voir la Logirem et le projet était parti. Et on a obtenu, en fait, de la Logirem à la base, un abattement de 70% du loyer pour 10 ans, 20 ans, voilà, tant que le projet durerait tel qu'il est.
Ah, donc vous payez quand même un loyer, alors ?
On paye un loyer, tout à fait, modique. Voilà. Après, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de travaux à faire dans le local, parce qu'on a eu un dégât des eaux. Voilà. En fait, c'était un local, un bureau. Donc, on a dû transformer ça en laboratoire de cuisine, en fait. Hein. Donc, il y a eu...
Des frigos.
C'est ça, il y a eu tout à faire. Et ça a été très compliqué parce que tout le projet de construction de la cuisine aux normes, en fait, a été réalisé par des chantiers bénévoles. Donc ça a été quand même le gros truc qui nous a pris plusieurs mois. Voilà.
Et du coup, dans le fonctionnement du projet, quels sont en fait les partages des tâches entre les salariés, enfin la salariée et puis les bénévoles ?
Si vous avez des besoins encore maintenant en termes de bénévoles.
Oui, voilà, si aussi vous avez des besoins, c'est peut-être le...
Alors, du coup, la cuisine, elle est ouverte 5 jours sur 7, de 7h30, 8h jusqu'à 13h. On ne livre que le midi. Il n'y a pas de restauration le soir, hors événement exceptionnel. Et ensuite, parfois, le samedi ou le dimanche, si on a des sollicitations pour des événements, que ce soit au café associatif le vendredi soir ou s'il y a un concert le samedi, etc. Donc, il y a aussi l'idée de faire de la vente à emporter pour n'importe quelle personne qui veut venir chercher son repas, mais aussi pour des projets militants, des événements festifs ou tout simplement faire des prestations type traiteur. Voilà. Donc ça, c'est exceptionnel. Donc sur ces repas, on est censé, pour obtenir un équilibre, vendre entre 30 et 40 repas par jour. Hein. Ça, c'était l'équilibre alimentaire. Et a priori, sur ces 30-40 repas, la cuisinière avait dit « moi, je peux être autonome pour les préparer ». Par contre, ça ne va pas être possible de faire tout ce qui est course, collecte de denrées alimentaires dans différents lieux qui donnent et traitement de ces invendus. et ensuite la distribution en fait pour les personnes qui ne veulent pas aller chercher sur place. Donc du coup, les besoins, pour répondre vraiment à la question, les besoins en bénévoles, ils sont surtout là en fait. C'est la collecte des denrées. Au début, on était censé, l'idée était de faire ça avec un vélo qui nous était prêté par l'association de Marseille, de Martigues, qui est le vélo des étangs. Donc ils ont un vélo cargo. Donc l'idée, c'était vraiment, parce que c'est tout petit en fait et quasiment tout est piétonnisé. Donc l'idée, c'était de faire en vélo la collecte et la distribution. Donc les besoins en bénévoles, ils sont surtout là-dessus. L'aide au nettoyage des légumes, à la distribution et lors des événements militants pour alléger au niveau des horaires de la salariée. L'idée, c'était aussi d'assurer les fameuses distributions de repas. Par exemple, quand il y a un concert, il faut distribuer les repas à 100 ou 120 personnes. Et donc ça, ce sont des bénévoles qui le font et qui s'inscrivent. Et l'idée de fin, hein, c'est que en fait c'est pas viable. Hein, en fait, c'est très compliqué de trouver des bénévoles pour venir 5 jours sur 7 en fait. Hein. Donc l'idée à terme, ce serait quand même d'embaucher un commis de cuisine, voilà, pour avoir vraiment une viabilité.
Et donc ça, vous y arrivez donc à vendre 30-40 repas à emporter donc par jour. Et puis comment, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier des plats offerts et il y en a combien du coup à l'heure actuelle?
Alors, il y a deux questions. La première question, est-ce qu'on arrive à vendre les 30 à 40 repas et à atteindre notre objectif pour notre fiabilité économique? Non, l'objectif n'est toujours pas atteint. Du coup, le projet, il a été lancé en juin 2021. L'association, elle a été réalisée, on a créé l'association en septembre 2021 et on a ouvert en mai 2022. Et donc, depuis mai 2022, on a ouvert juste avant l'été. Donc, c'est vrai que ça a été quand même très compliqué. Juin, juillet a été, jusqu'au 15 juillet, on a eu beaucoup, beaucoup d'activités avec beaucoup d'événements militants. Donc, ça a été plutôt bien. Après, il y a eu vraiment un creux sur l'été où là, on n'a pas du tout atteint les objectifs financiers. Et là, c'est reparti depuis septembre. Non, mais pour l'instant, non, on n'atteint pas les objectifs. Pour l'instant, on est encore en deçà de nos... des projections. Ça, c'était la première question. Ensuite, il y a un équilibre qui se fait pour 4 repas vendus. Il y en a un qui est distribué. Alors, il y a un équilibre qui se fait, en fait, quand on a fait l'Assemblée générale exceptionnelle et annuelle le 4 octobre, en fait, sur la totalité depuis l'ouverture, on est à l'équilibre, en fait. Même si ce n'est pas journalier, il y a des jours où, par exemple, il n'y a aucun repas qui est distribué, mais par exemple... Une fois, il y a la MED, la raffinerie, qui a eu des problèmes de frigo. Et donc, ils se sont retrouvés avec des tonnes de nourriture. Et donc, il y a un salarié de la MED qui nous a appelé, qui nous a dit « Est-ce que vous voulez venir récupérer ?» Et donc, elle a préparé, je crois que c'était du canard, je ne sais plus quoi. Je crois qu'elle avait préparé 90 repas. Et en fait, ces 90 repas ont été distribués directement en fait, dans la foulée. Et donc là, d'une certaine manière, en fait, on a pris de l'avance, en fait. Voilà, parfois, quand on a des arrivages comme ça, il y a de la production qui est faite rapidement. Ou sinon, en fait, ça dépend des jours. Il y a un partenariat avec plusieurs associations d'aide aux réfugiés qui a été mis en place sur Martigues avec des fiches de suivi. Et donc, en fait, c'est les personnes qui sont adressées par ces associations, qui sont donc la maison de l'hospitalité de Martigues, le collectif Le Pont, qui est un collectif de psychologues en fait, qui accompagne notamment les réfugiés dans leur parcours, et le foyer Adoma de Martigues, où là, il y a un partenariat, en fait, ces structures peuvent nous adresser en fait, des personnes. Donc, la majorité des personnes viennent comme ça, ou alors, parfois, il y a des surprises hein, qui arrivent le jour J en disant, on nous a dit qu'on distribuait de la nourriture, est-ce qu'on peut venir? Mais ça reste assez exceptionnel. Donc, il y a un équilibre qui se fait, ce n'est pas au quotidien, mais voilà, on arrive à, pour l'instant, en tout cas, au 4 octobre, on avait trouvé un équilibre sur la période.
Quelle différence alors avec les autres associations qui distribuent finalement de l'aide humanitaire, le Secours populaire, et puis tout ce qu'on avait vu pendant les confinements et qui continue quoi.
Alors, il y a eu une rencontre qui s'est faite avec la plateforme des anciens de McDo. Il y avait un événement qui avait été organisé, donc on les avait rencontrés. Et en fait, là, du coup, on va se rejoindre. C'est que, en fait, ces associations, les Restos du Cœur, parfois nous appellent en nous disant, on a des tonnes de nourriture, on va jeter, on ferme. Est-ce que vous récupérez pour les transformer? En fait, eux, les structures d'accompagnement Restos du Cœur, Secours populaire ou Secours catholique, elles n'ont pas de laboratoire de transformation alimentaire. Donc, du coup, elles ne peuvent pas transformer la nourriture, elles ne peuvent pas, à part congeler, elles ne peuvent rien faire. Donc, vraiment, le manque aujourd'hui qui existe, hein, et toutes les associations et toutes les villes le disent, c'est un laboratoire de transformation pour pouvoir, en fait, distribuer des repas, pour ne pas jeter, en fait. Et ensuite, c'est aussi accéder à une population qui n'a pas accès à une cuisine. Les gens dans la rue ou les gens qui sont en squat n'ont pas forcément accès à une cuisine pour pouvoir tout simplement préparer des repas. Donc là, l'idée, le créneau, vraiment, quand nous, on a contacté France Relance, le créneau, c'était vraiment ça. C'était accéder aux personnes et distribuer de la nourriture à des personnes qui ne peuvent pas préparer de repas et qui ne peuvent pas transformer. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi dans le projet, il y a aussi un projet de... Du coup, là, qui est difficile avec les bénévoles que l'on a et sans commis de cuisine, un projet qui s'appelait les Bocaux Martego. L'idée, c'était vraiment de faire un atelier de conserverie. Donc voilà, mais pour l'instant, notre local est trop petit. Il va falloir louer un deuxième local pour conserver ces bocaux. Et donc, c'est plutôt par à coup. Mais voilà, le projet, c'était aussi de faire de la conserverie, notamment l'été. Donc, de faire des soupes, coulis, etc. etc. Voilà. Parce qu'il y a souvent, enfin, l'été, on a tout qui arrive en masse. Et il faut transformer et il faut aussi conserver. Et la congélation, c'est quand même un coût énergétique très, très élevé, en fait. Enfin, le plus consommateur d'énergie dans une maison, c'est le congélateur, en fait. Hein. Donc, voilà, donc la conserverie, c'est quand même très intéressant.
Nico
Du coup, ça, vous répondez un peu à la dernière question qui était de savoir si vous aviez à plus ou moyen terme, plus long moyen terme, des projets. Donc voilà, donc ce projet de conserverie, est-ce qu'il y en aurait d'autres?
Et la conserverie, tu veux dire en boîte de conserve ou
Non, là c'est de la conserverie en bocaux. Du coup, on a acheté des bocaux. Et on a investi, on a fait des appels aussi à dons de bouteilles pour mettre, parce que c'est le bon format au niveau du, pour distribuer. Et l'idée, c'est que les bénéficiaires ramènent leurs bocaux, qu'on les restérilise. On a des outils de conservation. Donc non, c'est pas de la conserverie en boîte de conserve, parce que c'est pas, voilà, c'est pas écologique.
Par exemple, légumes lacto-fermentés.
Voilà, c'est ça, dans les projets, c'est ça. Et tout ce qui est soupe chaude, soupe froide, coulis, confiture, etc., etc. Dans les projets aussi, en fait, lorsqu'on a fait le premier bilan là, pour l'AG, dans les objectifs, c'était quand même un objectif zéro déchet. Donc, c'est-à-dire de distribuer les repas à la fois aux clients qui payent et à la fois aux bénéficiaires qui viennent chercher leurs repas, avec zéro déchet. Donc, c'est-à-dire dans des tupperwares, en verre, etc., etc. Et que les gens, en fait, ramènent leurs tupper, comme ça peut se faire Boulevard National à Marseille, à la Marmite Joyeuse, ou dans plein d'autres lieux. Hein. On vient avec notre récipient et on remplit notre récipient. Et c'est vrai que sur cet objectif-là, pour l'instant, ça a été quand même assez compliqué de donner des pratiques à la fois aux clientes et clients et à la fois aux bénéficiaires. Donc là, il y a vraiment un objectif zéro déchet à poursuivre. Pour l'instant, ce sont surtout des boîtes en maïs compostables qui ont été dans lesquelles on a investi pour distribuer les repas. Mais voilà, il y a cet objectif du zéro déchet à développer. L'objectif de la conserverie et la stabilisation économique de l'activité, hein, parce que pour l'instant, le projet n'est pas stable financièrement. Et la troisième activité, donc après stabilisation, c'est l'embauche d'un commis de cuisine, parce que pour l'instant, ça repose sur des bénévoles, en dehors même des tâches administratives de la vie de l'association. Hein, et voilà, c'est très, très lourd pour les quelques bénévoles qui s'investissent dans le projet.
Et bon, si nos auditrices, nos auditeurs souhaitent commander des repas, il faut qu'ils fassent comment?
Alors, il faut... donc, on a trois outils. Le téléphone. Donc, il y a un numéro de téléphone sur lequel les personnes peuvent appeler. Ensuite, le deuxième outil, c'est un Facebook qui s'appelle la cuisine sociale et solidaire de Martigues. Et donc, il y a ce qu'on appelle un Elo Asso. Donc, c'est un site internet associatif, en fait, sur lequel on peut à la fois adhérer à l'association, à la fois faire des dons et surtout commander les repas 24 heures à l'avance. Parce que pour l'instant, en termes de stabilité économique, en fait, on a encore besoin de... On ne peut pas venir le jour J et chercher un repas. Marie a besoin de savoir à l'avance combien de repas elle prépare pour éviter les gaspillages. Et donc, il faut commander avant, on va dire 20 heures le jour précédent, son repas, ou sinon faire des commandes par téléphone. Donc, vous avez les menus qui sont précisés sur le site Elo Asso. Donc, vous pouvez voir exactement les menus de la semaine à l'avance, Vous pouvez préciser si vous êtes sans gluten, vegan, végé, et voir à peu près les repas. Alors après, il y a quelque chose qui est un petit peu contraignant où les gens n'étaient pas forcément pas habitués. C'est que parfois, en fait, vous commandez votre repas et vous ne savez pas ce que c'est. Même si vous avez précisé végé ou vegan. C'est qu'en fonction en fait, des arrivages, elle va préparer son repas parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce que l'on va avoir comme don. Et donc, c'est en fonction des dons qu'elle décide des menus un peu au jour le jour.
C'est bien les surprises.
Voilà. Il y avait des gens qui disaient « Ah non, moi, je vais savoir à l'avance. » Et on leur disait « Bah non, en fait, non, c'est le jeu. » C'est comme une AMAP, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans toutes les semaines. Alors, le numéro de téléphone. Donc voilà, vous avez le Facebook Cuisine sociale et solidaire de Martigues, le Hello Asso Cuisine sociale et solidaire de Martigues avec les menus du jour, et ensuite le numéro de téléphone où vous pouvez soit envoyer un SMS pour commander, soit tout simplement appeler.
Oui.
Alors, pour joindre la Cuisine sociale et solidaire de Martigues, du coup, c'est le 06 63 42 31 83.
Super.
Vous tombez sur Marie.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci beaucoup.
Ben, merci.
Alors,
à vous.
N'hésitez pas à y aller manger.
Des bons repas. Merci, à bientôt.
Rapidement maintenant l'agenda d'Attaque Marseille pour le mois qui vient, et d'abord pour le 18 novembre à 19h45 au cinéma Le César, une soirée exceptionnelle. Le César, c'est Place Castellane, et nous vous présentons le film Mission Régénération de Joshua Tickel et de Rebecca Harel Tickel.
La projection sera suivie d'un débat avec Maxime Combe, membre du conseil scientifique d'Attaque, et Sophie Chapelle, journaliste à Basta. Ce film documentaire sort le 9 novembre. Il est agréable à voir et très intéressant par ses propositions concrètes pour la planète. Les sols de la planète sont la clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre corps aussi, hein, et finalement sauver notre monde, ou en tout cas un monde un peu moins dépensier. C'est un film qui se dit inspirant et révolutionnaire, et il semblerait qu'il révèle la première solution viable à notre crise climatique. La manifestation contre les violences faites aux femmes, qui traditionnellement est fixée lors de la journée internationale du 25 novembre, se déroulera cette année le samedi qui précède, c'est-à-dire le samedi 19 novembre. Le rendez-vous est fixé à 14h30 aux escaliers de la gare Saint-Charles. Venez-y nombreuses et nombreux pour essayer d'avancer sur ce sujet-là aussi. Le prochain apéro, quant à lui, aura lieu le 8 décembre, le deuxième jeudi du mois, au bar Le Petit Nice, 28 place Jean Jaurès, sur la Plaine, à 18h30. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Cette émission sera rediffusée lundi 21 novembre à 10h sur les antennes de Radio Galère. À bientôt!
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.